Oui, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Après cela, le Seigneur n'était plus là. Mais à la différence des disciples, là, dans ces moments de doute peut-être, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a fait son habitation en nous. Du moment que nous avons mis donc notre vie en règle avec Dieu, avec notre Créateur, le Saint-Esprit vient maintenant. Pas seulement notre cœur qui brûle, mais le Saint-Esprit vient brûler en nous et veut nous transformer, veut faire cette œuvre en nous. Et c'est inimaginable, peut-être on a du mal à voir ce que le Saint-Esprit veut faire de nous. Et ce matin, je vous propose un peu d'aller un peu plus loin encore dans cette vie. En tous les cas, c'est quelque chose que moi qui me tient à cœur. C'est pas possible que Dieu nous ait créés pour continuer finalement à vivre notre vie comme tout un chacun dans ce monde. C'est pas possible que le sacrifice de Christ, finalement, s'arrête là, à cette croix, et puis qu'il n'y ait aucune transformation qui soit visible et envisagée dans chacune de nos vies. Et on se trouve ainsi devant des paradoxes qui est le plus mystérieux dans la foi chrétienne, c'est qu'il y a eu cette vie, la vie, nous avons, nous, la vie, nous sommes beaucoup, il y a un verset qui dit « la vie de beaucoup grâce à la mort d'un seul ». Et comment envisager finalement ce mystère à l'échelle de notre propre vie et à celle aussi de l'humanité? Jusqu'à présent, c'était à cause du seul péché d'Adam que toute l'humanité était désormais tombée sous le jugement de Dieu. Et la condition des hommes était devenue finalement rapidement invivable. Et non seulement à cause de la généralisation du péché sur la terre, mais aussi parce que Dieu avait tellement en horreur le péché que sa colère se manifestait ici et là. Donc on sait bien, il y a l'exemple de Babel, il y a le déluge, il y a les villes de Sodome et Gomorre qui ont été décimées. Et ça, on ne peut pas rester indifférent à cette situation. Et même un peu plus tard, dans ces situations, on peut lire vraiment ce que pense le cœur de Dieu. C'est le psaume 14 ou 53, c'est un psaume, c'est deux psaumes qui ont les mêmes paroles. Donc juste quelques versets. « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et tous sont égarés, tous sont pervertis, et il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et là, c'est un triste constat, finalement, que fait notre Père. Et il me semble que on peut bien imaginer quand même ce qui peut se passer dans son cœur, le cœur vraiment du Créateur, dans cette situation où il voit les hommes, ses créatures, le rejeter, et puis non seulement elles le rejettent, elles se perdent. Mais résigné, Dieu se soumet à la volonté des hommes qui ne veulent pas de lui. Et naturellement, comme un bon père, il répond naturellement à leurs prières. Et bien, puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ou encore même pire, qu'il n'existe pas pour eux, et bien évidemment, puisque c'est leur souhait, Dieu se fait absent et il n'existe plus pour eux. Alors forcément, le constat qui est fait, c'est que les ténèbres s'épaississent. Et on s'étonne même que tout tourne mal dans ce monde. Mais malgré cela, ce que nous voyons dans le chapitre 11 des Hébreux, et puis ce qu'on peut voir dans nos propres vies, Dieu se tourne vers des hommes et des femmes de foi qui croient que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et c'est justement cette démarche de foi que Moïse a faite lorsqu'il immola la Pâque afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né d'Israël. Et cette foi a une conséquence, elle incline Dieu à manifester sa grâce pour couvrir et pardonner les péchés de ceux qui mettent leur confiance en lui. Bien entendu, quand nous abordons la fête de Pâques, on ne peut pas faire l'économie de parler du péché, puisque c'est à cause de lui que la mort, le salaire du péché, la conséquence du péché s'est naturellement manifestée pour tous les hommes. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire non plus l'économie de parler de la vraie vie, celle des ressuscités, puisque c'est celle que notre Sauveur nous a préparée. Ainsi, la fête de Pâques se trouve au carrefour entre deux mondes totalement opposés. Là, j'ai fait un petit schéma. Le péché, qui a pour conséquence la mort, et la résurrection, qui a pour conséquence une vie sainte. Alors, ce matin, je voudrais vraiment insister sur cette caractéristique qui fait que la fête de Pâques est un point de non-retour. Non seulement pour Christ, mais aussi pour les hommes et Satan. Dans le sens que la vie éternelle offerte par la mort et la résurrection de Christ change complètement la donne. À la chute d'Adam, le péché a complètement bouleversé le plan de Dieu en fermant l'accès à la vie éternelle. Et plus tard, la réponse de Dieu face à la grande méchanceté des hommes était son intervention directe et franche. On a évoqué la tour de Babel, on a évoqué le déluge. Il n'y avait pas lésiné, c'était comme ça, blanc ou noir. Et on peut prendre bien sûr plein d'autres exemples où Dieu est intervenu. Et le constat que nous pouvons faire est que toutes les choses, après son intervention, n'ont plus été après ce qu'elles étaient avant. Et dans ce cas de la Pâque juive, l'intervention miraculeuse de Dieu a transformé ce peuple qui était réduit à l'esclavage, non seulement une nation libre, mais aussi en une nation où Dieu lui-même a fait son habitation au milieu de ceux qui ont cru. Et le parcours du peuple d'Israël, il est très édifiant pour nous en tant que chrétiens, car tout l'intérêt que Dieu a porté à son peuple, jusqu'à y habiter, faire son habitation au milieu d'eux, c'est le chemin. Ce chemin s'apparente à beaucoup de choses, à l'intérêt que Dieu porte à chacune de nos vies. Et finalement, toutes les étapes clés par lesquelles le peuple est passé, le Seigneur aussi nous y conduit, aussi individuellement, pour parfaire notre relation avec lui et nous libérer de notre péché. Ainsi, tout comme la Pâque, avec le sang d'agneau aspergé sur le linteau et les poteaux des portes, a été l'unique moyen pour libérer de l'esclavage le peuple d'Israël, le sang de Christ qui a coulé sur la croix, Christ notre Pâque, est le seul moyen par lequel nous sommes sauvés et libérés aussi de l'esclavage du péché. Donc on peut se souvenir des plaies d'Égypte qui ont précédé cette Pâque. Mais aucune n'a eu l'efficacité escomptée. Seul le sang de l'agneau sans défaut a permis cette libération. De la même façon pour notre salut, parmi toutes les doctrines ou mouvements religieux qui annoncent un possible détachement de l'esprit ou une vie de plénitude, seul le sang de Christ est efficace. Il n'y a pas d'autre nom qui nous soit donné que le nom de Jésus. Alors, il y en a beaucoup qui cherchent, qui tâtonnent, ou bien qui restent figés sur le principe qu'il faut gagner son propre salut en réussissant à obéir à des règles préétablies. Tout cela, c'est du vent. Parce que ce qui touche notre Père, ce n'est pas de lui prouver que nous sommes capables d'accomplir ses commandements, mais bel et bien que nous nous approchons de lui, conscients de nos faiblesses, et je dirais même conscients de notre incapacité à lui plaire. On peut observer aussi tous les hommes et femmes de Dieu qui sont cités en exemple dans Hébreux 11. Tous ont crié leur incompétence à la suite de l'appel de Dieu. Néanmoins, ce qui a éveillé l'attention du Père, c'est leur foi, c'est leur démarche de confiance en Dieu, leur prise de risque. Allez, chiche, on y va. Cette même démarche, beaucoup l'ont faite ici. Et en décidant de croire au sacrifice de Christ, qui nous délivre de la condamnation de Dieu, oui, il y a une prise de risque. Car c'est une démarche que malheureusement, peu de nos contemporains font. Et qu'il faut être un peu naïf, je dirais même un peu fou, pour croire ces choses, pour croire encore à la Pâque. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est cette foi en la parole de l'Évangile qui sauve. Ensuite, cette démarche ne s'arrête pas là. La foi veut nous emmener dans des promesses de Dieu toujours plus improbables à vue humaine, pour nous faire grandir et nous libérer de notre péché qui nous enveloppe si aisément. Dans nos églises évangéliques, nous voyons bien souvent notre vie chrétienne comme le moyen d'un épanouissement social, avec quelquefois la possibilité d'accomplir des grandes choses. Mais il me semble qu'avant cela, il nous est demandé de mettre notre salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire réaliser l'œuvre que Christ a accomplie à la Pâque, pour que ce salut offert transforme notre vieille nature soumise par le péché en un nouvel homme soumis au Saint-Esprit. Quelques versets importants, Romains 8, verset 2. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi est incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Ces versets nous placent là vraiment au centre du message de Pâques. Dieu a envoyé son propre Fils avec la même nature que nous. Et il a fait passer sur lui le jugement que nous méritions. Mais l'œuvre de Christ à la Pâque ne s'arrête pas là. J'aime bien cette version du semeur, car elle est vraiment plus claire sur la raison de la venue de Christ. C'est pour régler le problème du péché. Sans trop rentrer dans les détails, mais quand même, non seulement la loi nous révélait le péché, mais elle nous maintenait sous sa culpabilité et aussi sous son pouvoir. Elle nous maintenait esclaves du péché. Et compte tenu de notre faiblesse, quand nous sommes, comme le dit ce passage, livrés à nous-mêmes, nous étions maintenus sous cette culpabilité et sous l'autorité et le pouvoir du péché. Et malgré le fait que la loi est juste, sainte et bonne, elle ne pouvait pas libérer les pécheurs du châtiment et ne pouvait pas non plus les rendre justes et encore moins transformer les vies. En revanche, Christ, notre Pâque, a réglé le problème. Il a réglé le problème du péché dans nos vies une fois pour toutes. Non seulement nous n'avons plus à craindre la condamnation, qui est la conséquence du péché, mais encore nous avons la possibilité de vivre sans être sous la domination du péché. Cette idée que le problème du péché peut être réglé dans nos vies est une réalité. Mais pourquoi on a tant de mal à nous l'approprier? Toute l'œuvre de Christ à la croix a pour objectif de régler le problème du péché de façon totale et entière une fois pour toutes. Nous avons vu qu'à l'issue des 3 heures sombres de la croix, Christ s'est écrié « C'est accompli ». Je ne sais pas comment vous comprenez ça, « C'est accompli ». On comprend bien pourtant cette parole comme « Tout est maintenant réglé ». Alors pourquoi douter de cette vérité? Ce n'est pas parce que nous subissons quotidiennement la déchéance ou la violence dans notre société, puis finalement, on s'en accommode et on finit même par y succomber, que cela met de côté cette possibilité d'en être libéré. Quand la première épître aux Thessaloniciens nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est-à-dire que nous soyons saints, nous soyons parfaits, et que nous nous abstenions de la débauche. Mais cela fait réellement écho à la raison pour laquelle Christ est mort à la Pâque. Quand Jean, dans ses épîtres, nous dit, 1 Jean 3, verset 5, s'il te plaît, « Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Alors on découvre une fois de plus là que Jésus est venu régler le péché dans notre vie et à notre place. Un peu plus loin, dans cet épître, il est dit aussi que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais oui, mais ce sont des passages là qui sont surprenants. Et il n'est pas question de dire que nous n'avons pas de péché. Car se sentir pécheur est aussi un signe de bonne santé spirituelle. C'est lorsque nous n'avons pas conscience de notre péché que nous sommes en danger. Et c'est pour ça justement que le Saint-Esprit nous a été envoyé, à la fois pour nous convaincre de péché, et aussi à la fois pour nous orienter notre cœur à aimer notre Père. Naturellement, on est tous des êtres tournés vers des plaisirs, et ces plaisirs sont finalement que la cause des péchés. Et lorsque nous aimons Dieu, nous avons en nous-mêmes des sources de plaisir et de joie profonde, au point que tout autre plaisir pâlit et n'attire plus. Alors dans cette situation, c'est là que nous ne péchons plus. Et c'est ça, être en Christ. C'est ça, mener cette vie, parce qu'on est en Christ. Et dans cette situation, on est un peu comme l'arbre qui est planté proche du ruisseau, qui est naturellement comblé et qui n'a pas besoin de chercher d'autres venues d'eau. Tels nous sommes lorsque nous demeurons en Christ. On n'a pas besoin d'autre source de plaisir que lui. Et je pense qu'on a tous ça dans nos vies, expérimenté, ressenti cette joie et ce plaisir d'être en Christ. Et c'est précisément ce que Dieu veut que nous vivions avec lui, et c'est surtout la finalité de son œuvre à la croix. Alors bien sûr, on peut continuer à avoir nos péchés, à demander inlassablement pardon pour nos péchés. Et on peut encore nous sentir accusés, même par le diable, qui tente de reprendre le pouvoir dans nos vies. Rappelons-nous qu'il a été vaincu à la croix et qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. Notre vie étant cachée en Christ, notre vie est désormais une vie de ressuscité. Nous l'avons plusieurs fois répété ces derniers temps, comme il est important d'avoir notre intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, qui a fait de chacun de nous son habitation. En examinant nos vies à la lumière de la parole, nous apprenons à nous connaître. Et Christ ne se contente pas de nous montrer notre état de péché, et il se révèle à nous dans sa puissance aussi de guérison. En nous tournant vers lui, il fera disparaître nos imperfections et il nous transformera en son image glorieuse. Je vous partage une illustration du Sadhu Sundar Singh, quelqu'un qui a vécu en Inde, dans le dénuement et une vie sainte, on pourrait dire. Je l'ai affiché. Donc il a vécu au début de ce siècle. Il en est de ce monde comme de la mer dont l'eau est salée, mais non les poissons qui nagent, parce qu'ils ont la vie en eux-mêmes. Si nous recevons la vie de notre Sauveur, bien qu'étant dans le monde, nous serons par sa grâce libérés du péché qui règne. Et il parlait, et il terminait cette illustration, je parle là de ma propre expérience. Je vis ça. Recevoir la vie de notre Sauveur, cela induit que nous marchons dans la nouvelle vie de ressuscité. C'est saisir à pleine main cette vie de ressuscité pour laquelle nous sommes destinés. On l'a chanté, on l'a proclamé, il vit. Nous avons adoré notre Seigneur car il vit. Et nous sommes tous convaincus de sa résurrection, oui ou non? On est tous convaincus de sa résurrection. Donc comprenons maintenant, mais comprenons quelles sont les promesses de résurrection pour chacune de nos vies. Mettons en notre tour notre salut en œuvre, cette vie, ce salut, cette vie qui nous a donné. Et pour terminer, je citerai ces versets de 1 Corinthiens 15 qui est le chapitre de la résurrection. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et encore. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc ne doutons plus de notre vie de ressuscité. Je ne sais pas ce que vous allez faire en rentrant, mais prenez du temps peut-être pour demander à Dieu, et peut-être on passera un temps encore dans la prière. Ça dépend que de nous, de ressentir, de vivre cette vie de ressuscité. Soyons fermes dans notre foi. Et c'est vrai qu'il est bon de s'appeler, de se rappeler que notre Seigneur est vivant. C'est bon de se rappeler, comme on l'a fait ce matin, que nous sommes vivants aussi avec lui. Car à partir de là, Dieu est intervenu dans nos vies et les choses ne sont plus comme avant. Chaque fois que Dieu intervient, souvenez-vous de ça, les choses ne sont plus comme avant. Nous sommes dans ce processus de sanctification. Ben oui, cela fait mal. Car pour être ressuscité, ben Christ a été crucifié. Et nous, je pense qu'on doit aussi passer par là. Il faut aussi avoir crucifié tout ce qui est lié avec cette vie terrestre. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole, on a besoin du Saint-Esprit, et on a aussi besoin de nos frères et sœurs dans l'Église, parce qu'on a besoin de marcher ensemble, parce que le monde ne fait pas de cadeaux, parce que le diable est là, il vieille comme un lion rugissant. On a besoin de marcher ensemble, de nous faire du bien les uns les autres, de nous sanctifier les uns les autres, pour nous aider à vivre cette vie, cette terre, libérée du péché, et aussi pour faire écho à la fin de ce verset, pour qu'on ne soit pas malheureux dans ce monde, mais les plus heureux de tous les hommes. Alors vous vous dites peut-être, il y a du chemin à faire. Ben non, pas tant que ça. Rappelez-vous ces paroles de Christ à la croix, « Tout est accompli ». Rappelons-nous ce slogan, je ne sais pas si tu l'as écrit, « Tout est accompli ». Et ça, on peut se l'approprier, et oublions encore nos moyens, hein, tout est accompli. Ne cherchons pas encore à apporter quelque chose, tout est accompli. Comptons seulement sur la grâce de notre Seigneur. Alors s'il y en a qui veulent prier pour moi, pour chacun de nous, pour que nous puissions apprendre ce que cela veut dire, la portée de ce message pratique, quelque chose de pratique dans nos vies, que ce péché puisse reculer aussi dans chacune de nos vies, ben, soyons libres aussi de prier les uns pour les autres. Oui Seigneur, merci de cette œuvre, on a du mal à rentrer, on y rentre peut-être faiblement, mais de notre côté, on sait que c'est comme ça que tu veux, que tu nous accueilles, c'est comme ça que tu veux que nous soyons. Et tu vois notre incapacité vraiment arrive à te plaire. Et c'est pour ça que nous voulons simplement te rappeler ces paroles. Tu as tout accompli, je n'ai plus rien à faire. Et dans cette démarche, dans ce rôle que nous avons quand même à jouer de témoin, aide-moi à faire de la place à cette vie que tu as placée dans mon esprit. Aide-moi à faire toute la place à toi, Seigneur, pour que justement ce plaisir, cette joie profonde, toute cette reconnaissance, cette louange qui est dans mon cœur, gagne, fasse le pas sur le péché aussi qui nous environne, qui m'environne. Nous avons besoin de grandir comme ça les uns les autres, de nous encourager, de nous exhorter. On a besoin d'hommes, de femmes, comme l'était peut-être l'apôtre Paul, comme l'était Sadhu Sundar Singh, qui ouvre la voie. Élève des personnes dans ce sens. Touche des cœurs pour que non seulement des personnes soient sauvées, te découvrent, mais qu'elles sachent mettre en œuvre leur salut de façon complète. Et je te fais cette prière, bien sûr, pour moi. Humblement, je me sens loin de tout cela, mais je sais que c'est ce que tu veux. Tu veux que cette sanctification dans ma vie, dans chacune de nos vies. Et nous voulons te prier encore ce matin, que tu nous remplisses de ce zèle, de cette joie, de ce plaisir vraiment de te connaître. Et merci parce que tu nous fais encore toucher du doigt ce matin. Quelle vie, mais quelle magnifique puissance tu as manifestée le jour de Pâques et ce moment où tu as ressuscité. Tu as ressuscité dans l'intimité, personne n'a vu. Mais en tous les cas, nous en sommes là, les bénéficiaires, et nous sommes là touchés vraiment par ce message. Au nom du Seigneur, amen.
J'aimerais partager avec vous les annonces, déjà pour le programme de la semaine. Mardi soir, réunion de prière. C'est important de prier. Alors, retrouvons-nous mardi soir ici à 20h30. Jeudi, c'est la chorale en commun qui se retrouve ici chez nous. Donc, pour la répétition, pour préparer pour les chants, pour le culte en commun. Samedi, le mariage d'Aurélie et Philippe à 14h, donc à Crossroad, à Ferney-Voltaire. Venons nombreux pour les entourer, pour se réjouir avec eux. Le mariage sera suivi d'une collation où on est chacun invité. Dimanche matin prochain, le culte ici à 10h30. Et puis quelques annonces pour la semaine d'après pour qu'on puisse se préparer. Jeudi 1er mai, il y a donc le concert Impact qui est à Gex, qui est organisé par Virage. J'ai pris un petit flyer, il y en a d'autres à disposition au fond de la salle. Je ne sais pas si vous avez lu ces flyers. Moi, j'ai lu. Et puis, le concert Impact, écoutez bien, il va se produire à Mulhouse, grande ville, Metz, Bruxelles, Dunkerque, Angers, Le Havre, Paris, Bordeaux, Nîmes, Marseille, Gex. C'est intéressant quand même, hein? Alors là, moi, j'aimerais dire un grand merci à Virage. On ne se rend pas compte, parfois, il y a des trucs comme ça, on a l'habitude, il y a des concerts qui se passent dans notre région. Eh bien, j'aimerais leur dire un grand merci, et puis en même temps, ils ont besoin d'un coup de main Virage. Parce que je l'ai annoncé déjà dimanche passé, François n'est pas bien dans sa santé. Donc, ils ont besoin d'un coup de main, parce que François, il a des soucis de santé qui font qu'il a de la peine à porter, à se déplacer, etc. Donc, répondons à leur demande pour ce coup de main, pour que ce concert se passe bien, qu'il soit bien organisé, que tout soit en place au bon moment, et que ce soit vraiment un moment utile pour notre Seigneur, pour qu'il puisse se manifester encore dans notre région, dans notre pays. Donc, si vous avez de la disponibilité, j'imagine surtout le jeudi, faites-le moi savoir, ou bien à Nicolas. C'est important d'être avec eux et puis de faire en sorte que ce concert se passe vraiment au mieux. Le dimanche d'après, donc le dimanche 4 mai, c'est le culte en commun. Donc il aura lieu à 10h à la salle Gaston Laverrière. Ce jour-là, il n'y aura pas de culte ici. Donc ne venez pas ici à 10h30, vous risqueriez d'être déçus. Par contre, le culte en commun sera suivi ensuite d'un repas fraternel d'une agape. Donc, ce sera un repas canadien. Donc, amenons chacun de quoi partager de la nourriture avec les autres et nous réjouir. Et puis, je vous rappelle aussi que l'après-midi, il y a une rencontre avec Portes Ouvertes. Pensons toujours à Mike qui est encore incarcéré. Pensons à lui, prions pour lui. On peut aussi lui écrire. Je ne sais pas s'il reste encore des petits papillons. Il en reste encore, prenons-les. On peut aussi lui écrire en dehors des dates qui sont marquées sur ces papillons. C'est important qu'il soit soutenu. On a d'assez bonnes nouvelles de sa part. Donc il a surtout contact avec Jean-Paul et Lydie. Mais c'est vraiment important de continuer de le soutenir dans nos prières. Si je n'ai rien oublié, je vous invite à vous lever. Et je vous lis encore deux versets qui sont dans Marc, qui sont des paroles de Jésus qu'il a données à ses disciples quelques jours avant la Pâque. Marc 13, les versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Amen. C'est vrai, ces versets nous parlent de son retour qui est la suite logique de sa résurrection. Alors je vous invite à vivre cette semaine bénie, riche, dans la présence de notre Seigneur et dans une attente de son prochain retour. Amen. Attends, j'ai oublié une petite annonce, excusez-moi, qui est importante concernant un faire-part de naissance qu'on a reçu de Clarence. Il est né un petit Valentin dans la famille de Clarence, chez Clarence et Daniel Stumpf. Donc il est né le 29 mars. Il pesait 3,90 kg et il mesurait 50 cm.